Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer de découvrir un auteur dans la veine des Chatham, Gibel ou encore Minier, Alexis Lebsker. Il est possible que vous le connaissiez d'ailleurs parce qu'avant de prendre la plume, il œuvrait pour la télévision. Celui que l'on surnomme le directeur est né à la fin des années 60. Il suit des études de droit et de comptabilité avant de devenir directeur d'hôtel de luxe à Paris. Puis, pendant qu'il crée et revend différents commerces, il fonde également une agence de communication. D'abord spécialisée dans l'hôtellerie, puis dans le domaine des jeux en ligne. Mais c'est le poker qui anime notre homme. De joueur, il devient commentateur, puis animateur d'émissions télé. Il devient l'ambassadeur de la Ligue française de poker et en 2013 est déclaré deuxième personne la plus influente de ce jeu, derrière Patrick Bruel. Il publie des ouvrages spécialisés sur le poker et le jeu en général. Puis un jour de 2020, allez savoir pourquoi, Alexis Lebsker ouvre son PC et se lance dans l'écriture de thrillers. Pour notre plus grand plaisir, sortent, et avec votre esprit, Les poupées, Hurlements et Mangeurs d'âmes, le roman que je vous invite à découvrir cette semaine. Alexis Lebsker est désormais qualifié de noircisseur de nuit blanche. Elisabeth Giordano est commandante de police. Elle est envoyée sur une scène de crime dans un village perdu au milieu des montagnes alors qu'une tempête de neige fait rage. Bloquée sur la route par un tapis blanc que les camions de déneigement ont bien du mal à retirer, elle fait la rencontre d'un gendarme, Franck de Roland. Lui se rend sur les lieux dans le cadre d'une enquête pour enlèvement d'enfants. Bien malgré elle, ils vont mener l'enquête conjointement. La scène de crime qu'ils découvrent lorsqu'ils arrivent enfin sur les lieux est totalement sordide. Un couple s'est entretué avec une violence inouïe, dévoré au sens propre du terme. Mais dans la maison, où il y a encore le petit déjeuner sur la table, rien. Pas une empreinte, pas d'effraction, juste une espèce de statuette sculptée au couteau représentant le diable. En fouillant les lieux, Elisabeth découvre un jeune adolescent dans la cave, effrayé, complètement désorienté. Seul témoin potentiel de ce qu'il s'est passé dans cette maison, le jeune garçon est hagard. Envoyé à l'hôpital, il tient toutefois quelques propos complètement incompréhensibles, parle du mangeur d'âme, mais est bien incapable d'expliquer quoi que ce soit. C'est sur cette piste hallucinante que nos flics se penchent en se demandant bien où cela va pouvoir les mener. Alors qu'ils cherchent à comprendre ce qui a bien pu se passer chez ce couple, ils sont appelés dans l'atelier d'un menuisier. Le policier leur fit traverser une cour entourée de plusieurs baraques de bois et tout au fond, un imposant hangar. Un homme d'une soixantaine d'années vient vers eux et les salua d'un air grave. « C'est vous qui avez découvert le corps ?» lui demanda Guardiano. « Oui, j'ai aussitôt prévenu la police. Pouvez-vous nous expliquer la raison de votre présence ici ?»« Je suis client de la menuiserie, j'ai fait fabriquer une série de planches en urgence et je suis venu voir si elles étaient prêtes. »« Et vous l'avez trouvé mort ?»« Voilà. » Comment saviez-vous qu'il était mort ? Comment je... Ben, vous allez voir, il n'y a pas de doute possible. Comme le petit groupe se mettait en marche vers la scierie, l'homme s'adressa à eux timidement. Excusez-moi, dites, ça vous dérange si je rentre chez moi ? Je me sens pas très bien après ce que j'ai vu et je n'ai pas tellement envie de revoir ça. Nous avons vos coordonnées ? Oui, naturellement. J'ai présenté mes papiers à votre collègue. Guardiano jeta un coup d'œil au policier en uniforme qui, d'un signe de tête, lui confirma que l'homme était digne de confiance. « Ok, mais à condition que vous ne quittiez pas la ville, » ordonna Guardiano. « On aura des questions à vous poser. »« Entendu. » Sans le regarder s'éloigner, les enquêteurs s'approchèrent d'une double porte en bois dont l'un des battants était entrouvert. Le policier en uniforme entra le premier. Son visage devint soudain livide, bien qu'il tentât de sauver les apparences en adoptant ce qu'il aurait voulu être du flegme. Guardiano et De Roland pénétrèrent dans une grande salle ouverte sur l'extérieur, remplie de troncs d'arbres, de treuils et d'engins élévateurs suspendus dont les chaînes pendaient en se balançant doucement dans un cliquetis métallique. Au centre, un gigantesque billot et une scie circulaire de près d'un mètre de diamètre. De part et d'autre de la lame, un homme littéralement coupé en deux. La victime était étendue sur le ventre. Sur le billot et par terre, il y avait une formidable giclée de sang, cette vomissure rouge, éclatante, avec quelque chose d'obscène. Quelques instants leur furent nécessaires pour s'extraire de l'hypnose de cette vision d'épouvante. Afin de ne pas souiller la scène, ils observèrent une certaine distance avec la victime et firent simplement le tour de la pièce en longeant les murs. Guardiano sortit son téléphone et prit des clichés sous tous les angles. de Roland, lui, semblait préférer inspecter l'ensemble afin de détecter toute anomalie. Le lieu exhalait un étrange parfum, mélange de sève, de bois coupé et d'odeur piquante de sang. « Un accident, c'est l'option la plus probable », déclara froidement Guardiano. Mais pas la plus plausible. Il tenait l'interrupteur à la main. « Regardez ce boîtier bleu, c'est la télécommande de la scie. Elle contient un bouton de sécurité. Si on le lâche, la lame s'immobilise immédiatement. Il y a peut-être une défaillance du système de sécurité. Il faudra vérifier, mais je n'y crois pas une seconde. Bon, alors option numéro 2, le suicide. S'il fallait tenir le bouton jusqu'au bout, c'est qu'il était consentant. » La bière. Faites des phrases. Lorsque quelqu'un souhaite se donner la mort, vous croyez qu'il s'ouvre une bière? Il a peut-être éprouvé le besoin de se donner du courage. Avec une bière? Pourquoi pas? Il ne l'a même pas terminée. Et là, qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il en désignant une assiette. On dirait un plat de haricots rouges, non? Vous pensez qu'il s'est fait un chili avant de se dire « Tiens, je me couperai bien en deux cet après-midi. » Personne ne peut s'infliger une mort aussi cruelle. Votre troisième option, c'est le meurtre, n'est-ce pas? Sauf que la sueur est répandue uniformément sur le sol. Si quelqu'un avait pénétré ici, nous le verrions. Vous avez raison. Il y aurait immanquablement des traces de lutte. Et de sang, renchérit Guardiano. Si quelqu'un s'était tenu à côté de la victime au moment où elle se faisait découper, il aurait été maculé de sang et ça aurait goûté partout. Alors, intervint l'agent de police, qu'est-ce que vous en concluez? Les deux enquêteurs se tournèrent vers lui avec la même mine déconfite. Plutôt que de lui répondre, ils préférèrent refaire un tour de la pièce en quête du moindre indice, de la moindre trace d'un éventuel assassin. Au moment où ils étaient sur le point d'abandonner, Guardiano fut parcouru d'un frisson. « Oh !» s'exclama-t-elle en pointant du doigt un tronc d'arbre couché. De Roland ne vit d'abord rien, puis soudain, une statuette en bois, exactement la même que chez les premières victimes. Ça ne peut pas être un hasard. Là non plus. Pas d'effraction, pas d'empreinte, juste cet homme coupé en deux sur sa scie. Mais cette fois, peut-être un témoin. Et cette silhouette qui sort en courant de la maison du menuisier, un PC sous le bras. De Roland le prend en chasse, mais la neige et la géographie ne facilitent pas la course. Au bout d'un long moment, le fuyard jette avec force le PC contre les rochers de la paroi qu'il escalade. L'ordinateur finit dans la rivière, en contrebas. De Roland ne lâche rien et va le récupérer, mettant le disque dur dans sa poche et omettant de parler de ce détail à Guardiano. Parce que le gendarme ne partage pas tout avec sa coéquipière, contrairement à ce qu'il lui a laissé entendre. Pour l'heure, la seule explication qui leur vient en tête est totalement irrationnelle. Serait-ce le diable et des forces occultes qui seraient responsables de ce carnage? Et les enfants disparus, alors? Y a-t-il un lien avec ces cadavres? S'ensuit la découverte du prêtre des lieux pendu, puis un nouveau couple qui s'entretue, sans compter tous ces oiseaux qui tombent du ciel, raides morts. L'enquête qu'Elisabeth mène avec l'aide du gendarme va l'amener à découvrir l'horreur, l'indicible, l'impensable. Mais ce moment partagé avec Franck de Roland va aussi lui permettre de faire taire les démons qui la rongeaient depuis trop longtemps.